Radio Django, la rose des vents.
Bonsoir Samuel.
Bonsoir Fabien.
Ce soir, tu nous présentes Alarme Faune. Il s'agit d'un numéro d'appel d'urgence destiné aux migrants en détresse dans la Méditerranée. La particularité de ce projet est de proposer une assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Oui, voici près de 4 ans que ce numéro d'appel d'urgence a été mis en place. Il est destiné aux boat people du 21e siècle qui tentent de rejoindre l'Europe. Ils le font avec des canots pneumatiques ou d'autres embarcations complètement inadaptées qui sont affrétées par des trafiquants spécialisés dans le passage. Alarme Faune n'effectue pas de sauvetage en mer, mais rend visibles les SOS de ces personnes en détresse. L'équipe garde le contact téléphonique jusqu'à la fin du sauvetage et les bénévoles d'Alarme Faune qui assurent l'assistance sont joignables, comme tu le disais, jour et nuit.
Mmh. Et avec le durcissement actuel des politiques européennes en matière de réfugiés, on imagine que les bénévoles ont encore pas mal de travail.
C'est vrai, depuis plusieurs années, les frontières intra-européennes ont été rétablies de facto. Certains membres de la société civile dénoncent d'ailleurs ce retour en arrière du régime frontalier de l'Union. Une marche solidaire de 1400 km a rallié Ventimille en Italie à Paris, où plusieurs milliers de personnes ont défilé dimanche 17 juin. Ils protestaient contre le blocage des frontières et le délit de solidarité. Il faut dire que du côté des responsables politiques, les positions sont de plus en plus fermées. En France, le président Emmanuel Macron appelle à mieux sécuriser les côtes. En Italie, le nouveau chef du gouvernement, Giuseppe Conte, veut tourner la page de l'immigration. Pendant que son ministre de l'Intérieur, le chef de l'extrême droite, Matteo Salvini, a décidé d'empêcher les ONG qui secourent les migrants d'accoster dans les ports italiens. Alors, face à ce blocage, on a quelques politiques qui tiennent un autre discours. Hier, sur France Inter, par exemple, le président de l'Assemblée Corse, Jean-Guy Talamoni, se déclarait prêt à ouvrir ses ports au Lifeline, ce bateau humanitaire qui erre en mer depuis samedi avec 234 migrants à son bord. Mm-hmm. Malte et l'Italie, lui, refusent l'accostage et pour la Corse, il faut l'accord de l'État français, ce qui n'est pas gagné. Jean-Guy Talamoni a ajouté que cette solidarité, je cite, « devrait être le cas de tous les pays de Méditerranée ».
Et la migration sera d'ailleurs à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État européens le week-end prochain.
Oui, et une rencontre de crise a déjà été organisée à Bruxelles ce dimanche. La semaine dernière, l'Italie demandait que Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, agisse dans les pays d'Afrique du Nord avant que les migrants n'embarquent. Après les hotspots en Grèce et en Italie qui ont été mis en place il y a quelques années, la volonté d'externaliser l'accueil des réfugiés loin des frontières de l'Union fait désormais partie de l'agenda officiel européen. Il s'agit de pouvoir distinguer les migrants à refuser et les demandeurs d'asile à accepter avant même qu'ils ne traversent la Méditerranée. Un des moyens serait de créer des plateformes régionales de débarquement des migrants qui ont été secourus en mer, y compris hors de l'Union. Alors selon l'agence France Presse, l'objectif est d'envoyer le message que monter dans un bateau ne garantira pas une arrivée en Europe. Le projet reste encore flou, mais il pourrait enfreindre le droit international. Et le respect du droit, c'est justement un autre volet de la mission de l'Alarme Faune. L'organisation documente et tente de prévenir la violation des droits des migrants aux frontières maritimes de l'Europe.
Bref, depuis le 11 octobre 2014, date de son lancement, on voit que le projet Alarme Faune n'a malheureusement rien perdu de son actualité. Samuel, tu allais rencontrer Sarah, une des bénévoles qui appartient au groupe de Genève. Elle nous explique comment fonctionne cette assistance.
Donc il y a un numéro... qui est l'Alarme Faune, et en fait on a une centrale téléphonique qui en fait transfère l'appel. Je pense qu'on est le seul réseau qui propose un numéro qui est vraiment 24 sur 24, 7 sur 7. Avant l'existence de l'Alarme Faune, il y a déjà eu des choses qui ressemblaient un peu dans leur fonctionnement, mais beaucoup moins organisées, où c'était plutôt des membres de famille qui ont été alertés, qu'il y a eu un cas de détresse, qu'eux, ils ont pris en charge d'essayer d'alarmer les gardes-côtes. Ou justement, quand les gardes-côtes étaient alarmés et après des heures, il n'y avait pas eu d'action. Et c'est assez un peu sur ça que l'idée de l'Alarme Faune est née. Ce serait bien d'avoir un suivi en fait, en temps réel, pour des cas de... Parce qu'il y a eu, en 2013, il y avait un bateau de 400 personnes où il y a eu 200 morts, où les gardes-côtes italiennes et de Malte étaient informés, mais que seulement quelques heures après, il y a eu un sauvetage. Et du coup, c'était un peu sur ça. On s'est dit, comment ça sera passé s'il y avait un numéro indépendant que les personnes en détresse auront pu appeler pour dire on est là et là, on a alerté, est-ce que vous pouvez suivre ? Notre mission principale, c'est en fait de suivre l'évolution du sauvetage. Donc nous, on prend contact avec les gardes-côtes en charge. Donc si c'est un cas pour la Méditerranée de l'Ouest, c'est soit alors avec les gardes-côtes marocains ou les gardes-côtes espagnols. Donc on a toutes ces informations-là de quels sont les numéros, quelle est l'autorité compétente.
Quand ils vous appellent, ils sont a priori tous dans une situation de détresse liée à la navigation ou pas forcément ?
C'est soit des cas, enfin surtout pour les gays, c'est vraiment quasi uniquement des cas de détresse où le moteur ne fonctionne plus, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Ce qu'il y a eu pour les cas entre le Maroc et l'Espagne, que c'est des personnes qui sont dans des bateaux à rames et qui sont physiquement très épuisées et qui arrivent juste plus à avancer ni reculer, qui sont juste en train de se faire emporter par la mer. Ce qui est très dangereux avec les courants de l'Atlantique, que justement ils peuvent, selon les cas, être amenés assez loin.
Et donc ensuite, pendant le cours du sauvetage, vous transmettez l'information. L'information, une fois qu'elle est reçue, vous assurez que le déplacement a bien lieu et vous dites que vous suivez aussi le sauvetage en tant que tel, jusqu'à l'arrivée au port.
Ouais, c'est ça. Donc une de nos missions principales, c'est surtout de garder contact avec les personnes sur le bateau, aussi de les rassurer qu'on est en contact avec les gardes-côtes, qu'on leur a transmis les informations, qu'on regarde aussi sur des cartes en ligne où on voit les mouvements des bateaux s'ils sont en route. Et du coup, voilà, nous on suit aussi pour voir si le sauvetage a bien eu lieu, ou si c'était des cas de refoulement, si c'était le cas aussi, pour s'il y a eu des violations des droits humains, pour que ça soit rendu public.
Donc vous êtes au sein d'un réseau, d'un maillage d'acteurs en Méditerranée, avec des personnes qui font de la reconnaissance aérienne, avec des ONG qui secourent les bateaux sur place. Comment votre numéro d'appel est connu ? Est-ce qu'il est connu des autres ONG ? Est-ce que les personnes qui sont en train de voyager ont ces numéros et comment ?
Ouais, donc c'est beaucoup par les communautés de migrants en Afrique du Nord ou aussi autour de la Turquie que le numéro il circule. Mais après, on a aussi au sein du réseau des personnes qui font les permanences, qui sont eux-mêmes déjà fait le passage ou ont eux-mêmes justement un vécu de migration. Et après, on fonctionne aussi beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, une des missions de l'Alarm Phone, c'est aussi de transmettre de l'information. On alerte les personnes aux dangers auxquels ils peuvent faire face en traversant la Méditerranée. Et du coup, aussi en communiquant le numéro et qu'est-ce qu'il faut faire en cas de détresse. Et c'est un numéro qui commence à circuler du coup pas mal entre les différentes communautés de migrants. Donc on est un réseau transnational avec des membres qui sont tout autour de la Méditerranée, du Maroc à la Tunisie, Suisse, Allemagne, France jusqu'à l'Angleterre. Pour la Tunisie, il y a un assez grand groupe à Tunis. Et aussi pour la Turquie, malheureusement pas beaucoup.
De la Tunisie au Royaume-Uni, en passant par les pays du pourtour méditerranéen et par la Suisse, le réseau d'Alarm Phone est passablement étendu. Il représente combien de personnes, Samuel ?
Alors, 150 bénévoles assurent les permanences téléphoniques. En Suisse, ils sont une vingtaine. Ils arrivent à assurer un service 24 heures sur 24, même si on s'en doute, c'est un petit peu plus tendu pour trouver des personnes pour les permanences de nuit.
Mmh. À présent, entrons dans le concret avec Sarah. Elle t'a expliqué quel était son rôle à elle, au bout du fil.
Je suis une des personnes qui s'en charge de maintenir ses permanences téléphoniques. Donc c'est toujours par tranche de 8 heures. Et ces permanences, elles sont toujours faites en duo. Donc il y a une personne principale qui est responsable de répondre aux appels, et il y a une personne qui est backup. Et en fait, ce backup, alors il peut se trouver physiquement dans le même milieu que la personne principale, comme ça peut être quelqu'un qui est dans le réseau, mais localisé dans tout un autre coin, qu'on est en contact du coup par différents canaux de communication.
Pour vous, c'était quoi la motivation de votre engagement ?
Ouais, alors pour moi, j'étais déjà assez actif dans des réseaux de soutien de réfugiés ici en Suisse. Après, j'ai entendu parler de l'alarme faune et je savais qu'ils avaient besoin du monde pour maintenir justement la permanence. Et pour moi, c'est une manière très, très directe de comment je pouvais m'impliquer.
Quand un appel parvient au numéro d'urgence, est-ce qu'il y a un protocole précis de traitement de cet appel? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Alors, en fait, on reçoit des appels des trois régions principaux de la Méditerranée, du coup, de l'Égée, de la Méditerranée centrale et de la Méditerranée de l'Ouest. Et donc, selon les régions, on a des plans ou des marches à suivre de comment il faut agir dans telle situation et surtout quels sont les numéros qu'il faut qu'on contacte. On travaille beaucoup avec des cartes en ligne et aussi avec la plateforme de Watch the Met, qui est un peu un projet parallèle à Watch the Met Alarm Phone, qu'on voit où sont les zones de compétence des différentes autorités. Et ouais, voilà, c'est vraiment selon la situation. Et justement, si on voit que les gardes-côtes n'arrivent pas, on peut aussi regarder s'il y a des bateaux commerciaux qui sont prêts, qu'on pourrait éventuellement essayer d'alarmer de la situation. On a des traducteurs au sein du réseau, donc pour les gays, souvent c'est de l'arabe. Donc on a des personnes qu'on peut nous contacter pour nous traduire ou pour essayer de les rappeler et de communiquer. Et du coup, dans mon cas, j'ai toujours pu communiquer en français, ce qui est bien parce qu'il faut aussi à chaque fois qu'on a leur accord, qu'ils sont d'accord qu'on contacte les gardes-côtes, qu'on relaie les informations, et ben, ça évite des malentendus. Je dirais le moment le plus stressant, c'était quand on était contacté pour 5 poteaux au même temps, et que ça nous a mis du temps à comprendre qui était sur quel bateau, combien de personnes, où. Et qu'un bateau, à un moment donné, il disait qu'il y avait de l'eau qui commençait à rentrer, qu'on savait que ça commençait à vraiment être urgent, qu'on a communiqué la position au garde-côte espagnol, et que les gens du bateau, quand on les a rappelés, ils ont dit qu'ils voyaient passer le bateau, mais les bateaux ne les a pas perçus dès le début, qu'on a dû rappeler pour dire « Ouais, ils vous ont vu, vous êtes passé plus au sud. » Après, on les a rappelés et dit « Ouais, là, on va faire un demi-tour le bateau. » Enfin, que finalement, ils ont été secourus. Mais là, c'était... Ouais, du moment qu'on sait qu'il y a de l'eau qui rentre, ça commence à être stressant. Surtout s'il y a des moments où ils répondent plus au téléphone.
Quelle proportion est arrivée à bon port?
Ça, je ne saurais malheureusement vraiment pas donner des pourcentages. Je dirais que c'est quand même la majorité qui y arrive, mais on est quand même régulièrement témoin, malheureusement, de personnes qui ont trouvé la mort en mer. Enfin, là, on a eu, il y a une semaine, où il y a eu des grosses pertes dans les trois régions principales de la Méditerranée, avec le naufrage juste devant les côtes tunisiennes avec les 100 morts. Après, avec une famille entière qui a coulé juste devant la Turquie, que le membre de l'alarme faune qui était à la permanence était en contact avec les gardes-côtes turcs pour ce cas-là. Et en même temps, il y a aussi la même semaine, il y a eu 8 personnes sur 9 dans un bateau en Méditerranée de l'Ouest qui malheureusement n'ont pas survécu.
Alors, ces naufrages vécus en direct par les bénévoles d'Alarm Phone s'ajoutent aux quelques 15 000 enfants, femmes et hommes qui sont morts noyés en tentant de rejoindre les rivages européens.
Et du côté des secours réussis, on ne peut s'empêcher de penser aux 630 passagers de l'Aquarius, ce bateau affrété par SOS Méditerranée, qui ont erré pendant plusieurs jours en mer. L'Italie, comme la France, où se trouvaient les ports les plus proches, ont refusé son accostage.
Oui, et l'histoire se répète avec le navire humanitaire Lifeline, lui aussi bloqué depuis samedi dans les eaux internationales. Quand les passagers de l'Aquarius sont finalement arrivés en Espagne il y a une dizaine de jours, ils ont débarqué sous l'œil de 600 journalistes. Ça me rappelle l'émotion suscitée par la mort du petit Elan noyé près d'une plage turque. Souvenez-vous, c'était le 2 septembre 2015. L'image du corps de cet enfant échoué sur le sable, loin de son pays, la Syrie, avait déclenché une vague d'émotion en Europe. Une mobilisation de la société civile en faveur des exilés avait suivi. Et depuis, les naufrages anonymes ont continué.
C'est également loin des caméras qu'Alarm Phone opère. Depuis 2014, plus de 2000 cas de bateaux en détresse ont été traités, les trois quarts en mer Égée.
Oui, et Sarah me racontait que pendant les trois dernières semaines, 65 embarcations en détresse les ont contactées, soit trois bateaux chaque jour. L'été est une période particulièrement dense et la veille de l'accostage de l'Aquarius, les gardes-côtes espagnols ont secouru 80 bateaux. C'est une embarcation en détresse toutes les 18 minutes, jour et nuit.
Quand même, toutes les 18 minutes, ouais.
Au moment même où je faisais l'interview de Sarah, lundi dernier, trois femmes et deux petits garçons se sont noyés au large de la Libye. Plus de 120 personnes étaient entassées dans un canot pneumatique qui s'est mis à prendre l'eau. Selon un rescapé, un bateau italien a passé à proximité et a refusé de les secourir. Les gardes-côtes libyens sont finalement intervenus. Ces trois femmes et ces deux enfants sont tombés à l'eau pendant l'opération de sauvetage. Ils se sont noyés à 15 km au large des côtes libyennes.
Justement, tu as aussi demandé à Sarah de préciser le lien entre Alarm Phone et les gardes-côtes. On l'écoute.
Quel lien vous avez avec les autorités de tous ces pays du pourtour méditerranéen ?
Bon, nous, notre rôle, c'est de transmettre des informations. Donc, généralement, ils prennent note des informations qu'on leur donne. Et après, ça dépend finalement aussi de beaucoup qui répond à l'appel. Enfin, on ne peut pas forcément généraliser que telle autorité réagisse comme telle et l'autre comme telle. C'est finalement beaucoup de qui répond à l'appel. Mais ce qui est toujours important, c'est qu'on essaie de donner le plus d'informations possibles pour qu'il n'y ait pas non plus confusion entre les bateaux. Parce que des fois, nous, on a l'information d'un bateau. Que si eux, ils font des secours, des fois, il y a plusieurs bateaux à peu près dans une même zone. Et du coup, pour être sûr qu'ils ont bien secouru le bateau duquel nous, on a eu les informations.
Quel retour vous ressentez comme ça de votre présence et de ce rôle que vous jouez d'alarme ?
Ouais, ça. Enfin, généralement, on est en bon contact avec les gardes-côtes. Donc, de ce côté-là, ça se passe bien. Mais justement, je ne sais pas si c'est plus par leur code professionnel ou si c'est aussi par une volonté étatique qu'il y a derrière. Si c'est le cas, c'est sûr que pour l'Italie, on sentirait certainement un changement. Mais ouais, juste comme ça, je ne sais pas comment c'est pas. Enfin, ouais, je pense que ça dépend des gouvernements.
Est-ce que depuis quelques années, vous voyez une évolution dans le nombre d'appels ? C'est stable, ça augmente ? Vous dites que l'hiver, il y a effectivement moins de traversées, donc moins d'appels. Est-ce que depuis les 4 années d'expérience, quelle évolution vous voyez ?
Au niveau des nombres d'appels, ça, je ne saurais pas vous dire, puisque moi, je suis membre que très récemment. Mais sauf erreur, j'ai l'impression, en tout cas, pour les cas de détresse, ils sont plutôt en augmentation. Puisque c'est de plus en plus précarisé, les chemins alternatifs deviennent de plus en plus compliqués, ce qui ne réduit pas du tout le nombre de personnes qui essaient de venir, mais ça rend juste la traversée encore plus compliquée et plus périlleuse.
Et sur un plan beaucoup plus récent, on peut évidemment pas faire l'impasse de l'Aquarius et de la situation italienne qui est en train de changer avec Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, qui a déclaré qu'il refusait d'autoriser les bateaux des ONG à accoster en Italie. Est-ce que depuis cette semaine, ces 10 jours de déclaration, vous voyez-vous déjà un impact que ça aura sur votre travail ?
Oui, alors pour l'instant, c'est encore difficile à dire parce que c'est assez récent, mais enfin, certes, c'est une situation assez alarmante. Et pour l'instant, ça ne nous concerne pas encore directement, puisque nous, on intervient en fait au niveau du sauvetage et du transfert, donc pas du tout au moment qu'il s'agit justement d'arriver vers un port. Mais ouais, avec la nouvelle annonce qu'il y a encore 2 autres bateaux des ONG qui ne seront plus admis dans des ports italiens, on aurait effectivement aussi moins d'acteurs, surtout pour la Méditerranée centrale, auxquels nous, on peut relayer des informations. Après, pour l'instant, c'est vraiment trop tôt de comment la situation elle va évoluer. On va certainement essayer de rester en étroite collaboration avec les ONG. Et on ne sait pas non plus si eux, ils vont décider de quand même effectuer ces sauvetages contre la volonté des acteurs étatiques. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment prédire, mais on voit qu'il y a aussi au sein des États, enfin, en particulier pour l'Italie et l'Espagne, qui a des tendances qui s'opposent activement à ces agendas nationaux de droite, comme par exemple les maires de Palerme, Reggio di Calabria et Naples, qui disaient qu'ils voulaient quand même garder le port ouvert pour les ONG, même si ça a plus une valeur symbolique peut-être, ou aussi, surtout au sein des équipes des sauveteurs, qui considèrent comme des partisans neutres du droit de la mer, et que pour eux, l'approche humaniste légaliste selon laquelle les missions de sauvetage doivent nécessairement être maintenues, enfin, du coup, pour eux, c'est plus un code professionnel finalement qu'une politique étatique.
Et pour continuer sa mission, Alarm Phone a besoin de bénévoles pour assurer les permanences 2 ou 3 fois par mois, voire plus selon les disponibilités de chacun. Et les personnes intéressées peuvent se faire connaître via le groupe Facebook d'Alarm Phone. Tous les détails figureront sur notre site internet.
Évidemment, avec la réécoute de ce sujet. Merci beaucoup à Sarah pour ses explications et sa participation. Ce sujet a été proposé par Nicolas, il a été préparé par toi Samuel, merci beaucoup. Et vous pouvez évidemment retrouver les liens, les informations et le podcast de ce sujet sur www.django.fm. Voici un peu de musique qui nous a été proposée par notre interlocutrice ce soir, Sarah.
Dancing at the border, singing for new water, Frontex in the corner, we are taking over. When deportation kills and passports murder freedom of movements, everybody's right. When deportation kills and passports murder freedom of movements, everybody's right. Illegal, illegal, no one here is illegal. Illegal, illegal, no one here is illegal. Nie rób ty czatem mory, mra panu kakasim. Nie wali cię na gra, de nie w miliardy szmi. Nie dojdzie w kurty strągą, do staty jedne budzi. Baszkie wasz dołem do ruch, baż do diabi marim. Mosi mysi na cieli, zodin mozy krko. Jebie budzi tam na standard, porto je tu a lufto. Europa myli se anzu, ci dasz tu de kufin. Te ty i ja bich trachę, te porczasz on fachwami.
Illegal, illegal.
Is illegal, c'est Renovatio qui nous était proposé en cette fin de Rose des Vents par Sarah, notre invitée.